Absence, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je veux pas. Enfin, écoutez-en, mais sachez que.
On est comme des gamins dans, dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamangs dans une cage qui chantent une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 et disponible en podcast.
Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission des musiques contemporaines. Après une émission haute en couleur il y a deux semaines où on recevait l'orchestre Orion... Enfin, son chef et son violoniste, parce qu'on ne peut pas recevoir tout l'orchestre à l'intérieur des studios de Radio Campus. On continue, comme une semaine sur deux, notre exploration des musiques et esthétiques contemporaines. Il me semble en avoir rêvé de cette émission. Je vous passe l'analyse de ce rêve, mon analyste est en vacances. Mais après avoir invité Clara Inota, fraîchement élue en tant que nouvelle professeur de composition au CNSM DP, le Conservatoire National de Paris de musique et de danse. Voilà, pour les néophytes qui nous écoutent, nous recevons aujourd'hui Stefano Gervasoni, professeur au même CNSM. Lui, depuis bientôt 20 ans, si j'ai bien compris, c'est ça ?
C'est ça.
Bonsoir Stefano, merci
bonsoir,
d'être avec nous
bonsoir.
Ce soir.
Encore en italien.
Mais nous en sommes ravis. Je suis aussi avec Lorraine. Salut Lorraine.
Bonsoir.
Ma coéquipière. Et dans le studio, je les présenterai tout à l'heure. Alors, tous les compositeurs dont on admire le travail au XXe siècle, eh bien, vous les avez connus, Stefano. J'ai l'impression. Cependant, on va essayer de pas trop parler de Nono, de Ligeti, de Hedwig ou de Larenman ce soir. Même si on pourrait organiser un date, peut-être, tous les deux, à un moment pour en parler, parce que ça m'intéresserait drôlement. Ce soir, on va donc essayer de parler de l'enseignement de la composition à l'heure actuelle en 2025 et se poser des questions d'esthétique musicale et écouter, bien entendu, vos travaux. Toute cette discussion sera entrecoupée donc de vos compositions qu'on est trop heureux de faire écouter ici à Radio Campus Paris, qui est quand même une radio historiquement liée à cette musique contemporaine. Et nous allons d'ailleurs directement écouter quelque chose, ce qui nous permettra de nous mettre à niveau questions techniques. Je vous propose donc d'écouter un extrait de Lilo Leva, donc par l'ensemble Uko Kif. Est dirigé par Vino Cativo. Stefano, vous pourriez nous en dire quelques mots sur ce projet, juste pour faciliter l'écoute?
Oui, bon, je me permets de préciser que Vino Cativo, c'est un mot italien qui signifie vin mauvais, et c'est pas le nom du chef.
Oui, non, bien mince, désolé, c'est moi qui m'en mêle dans mes... Oh, je suis désolé.
Vino Cativo, c'est le titre d'une des pièces qui compose Lilo Leva.
Très bien.
Voilà, et bon, et je définis cette pièce qui est une suite d'images un peu à la Bartok. Un vagabondage sonore. Et donc Vino Cativo, c'est une sorte de rencontre dans cette Winterreise personnelle, un peu Winterreise sans prétention, d'un auberge où on fait des rencontres un peu bizarres, on boit du vin et qui ne fait que rendre encore plus bizarre les rencontres.
C'est un peu comme cette émission de radio. Eh bien, écoutons justement ce Vino Cativo. Et donc, c'est par l'ensemble Uko Kif, c'est ça? J'espère, j'ai toujours du mal à prononcer.
Oui, dirigé par Luigi Caggiero.
Voilà, c'est mieux. C'est Radio Campus Paris et on se revoit dans quelques minutes.
Thank you.
Et donc on écoutait un extrait de donc Vino Cattivo par l'ensemble Uko Kiv. Alors et d'ailleurs si le titre Vino Cattivo, Lilo Lela, ça représente quoi?
Bah Lilo Lela, ça veut rien dire en fait.
C'est... Ah, okay.
Si je me souviens bien, parce que c'est une pièce qui date de 95.
Ah oui.
Et dédiée d'ailleurs à Lachenmann, un des grands compositeurs
qu'on a
évoqués
cité
tout à l'heure. Et à l'époque, je voulais, pour souligner cette idée de vagabondage musical, un titre qui voulait un non-sens, qui voulait rien dire, mais c'est j'avais trouvé que c'était un terme musicologique pour définir les parties des certaines musiques instrumentales de l'époque de la Renaissance, pardon, vocales, pas instrumentales, qui ont des parties vocales de manière un peu instrumentale, c'est-à-dire pas avec texte, mais avec des syllabes répétées.
D'accord.
Et donc, li, lo, le, la, ou pa, 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 parara, talala, tralala, etc. Donc, li, lo, le, la.
Ok. Et alors, justement, j'ai l'impression, en ayant scruté un peu votre catalogue de pièces, il y a ce terme de série et ce terme d'amusement avec ces séries de titres et de prétextes, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Oui. Pardon. Oui, sans doute. L'ironie est importante en musique. Je crois que si en plus on pense au sérieux de pas mal de musique contemporaine, au moins comme je l'avais connu à mon époque quand j'étais étudiant. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre que toute musique a une sorte d'ambiguïté permanente et la musique ne peut jamais dire les choses de manière directe. Donc, l'intonation ne peut jamais être uniquement sérieuse, uniquement joyeuse, uniquement humoristique, mais c'est toujours un mélange. Et pour moi, l'ironie est exactement ce mélange et cette possibilité de changer souvent d'humeur, de situation, de caractère, même de signification.
D'accord. Oui, bah, ça me fait penser à ce que Duchamp disait, prendre au sérieux le fait de rire.
Oui, c'est ça.
Et justement, un peu cette musique qui est quand même souvent caractérisée de complexe et de difficilement écoutable, etc. C'est par cette manière de série et c'est par cette manière de moins prendre au sérieux, peut-être avec les titres, avec... que vous arrivez à toucher un petit peu le public ou... Enfin, comment ça se passe? Enfin, quelle est la recherche? Enfin, je ne sais pas trop quoi.
Oui, je comprends la question, et, qui est d'ailleurs énorme.
Oui, un petit peu.
Parce qu'un compositeur, je pense qu'un artiste, d'abord, ne vise pas à convaincre un public, mais il cherche à dire des choses avec une matière qui n'est pas celle verbale, et donc qui n'est pas logique, qui ne peut pas être interprétée de manière univoque. Et déjà, pour les livres, la philosophie, la poésie, même si c'est de l'écrit, et un langage qui a un code universel, ben c'est quand même, on a un éventail de possibilités, de nuances possibles, de significations possibles. La musique, encore plus. Pour moi, c'est une puissance particulière que la musique a, qui est celle de séduire d'abord. Donc, et comment on séduit, je n'ai pas des recettes particulières. D'un coup, comme une fleur peut s'en apercevoir, si les fleurs peuvent s'apercevoir que leur... composition des couleurs et des formes attire le regard et embellit la vie des gens. Moi, je me suis aperçu à un moment donné dans mon évolution de jeune compositeur que par certains moyens, je pouvais attiser un certain intérêt.
Vous trouvez la couleur.
Mais je suis contre la séduction en musique et en général. Parce qu'on devient victime après de ce langage concret.
Ouais. Et j'imagine du coup la séduction, elle est plutôt envers votre exigence musicale. C'est enfin de ce que j'entends, c'est un peu une séduction vers votre exigence musicale. Et c'est Et c'est un peu cette séduction qui transparaît et qui va séduire finalement. Un petit peu, beaucoup.
Oui, mais je voudrais mieux comprendre.
Mais alors, moi, j'ai peut-être une question un peu plus précise. C'est un peu mon travail quand même. Justement, la pièce qu'on vient d'écouter, c'est 95. Et alors, nous, en tant que jeunes ou très jeunes aimants de cette musique, amants de cette musique, et ben, est-ce que ça, comment ça a été reçu justement cette non prise au sérieux, que ce soit dans les titres, enfin le fait justement de cultiver cette esthétique, est-ce que ça a été bien pris, est-ce que ça a été mal pris? Oui, j'imagine que bien pris, parce que maintenant vous êtes professeur et compositeur émérite.
J'essaie de réfléchir un peu a posteriori, et même si 31 ans ont passé depuis la date de la composition de cette pièce, ma sensibilité historique, je ne suis pas en mesure d'évaluer avec distance ce qui s'est passé. C'est encore une pièce que j'aime beaucoup, que j'écrirai plus aujourd'hui. Là, le but principal était de viser une certaine simplicité, qui était un mot presque détesté en musique contemporaine. On visait plutôt la complexité, et parce qu'il fallait un langage complexe, mais surtout un langage qui vise le progrès. Donc progrès égale complexité, le plus difficile, le plus contemporain. Et c'était, je ressentais que c'était un peu ridicule même. Mais j'étais éduqué et nourri de ces concepts et des outils capables au conservatoire de me permettre d'écrire une musique complexe que j'ai peu à peu refusé, pas dans le sens d'écrire de la musique simpliste.
Oui, bien. Ce qu'on vient d'écouter, c'est pas simpliste, justement.
Mais de rendre la perception plus simple, malgré la complexité
intérieure
de sa facture. Et si on voit les choses dans la nature, comme tout objet construit par des artisans. En fait, tout est très complexe.
Oui.
Produisant un résultat harmonieux qui, à un premier regard, semble être tout à fait simple. Comme les formes de la nature, elles sont très complexes, mais en même temps très... on se sent bien avec.
Exactement. Et alors, ça, on en vient à la question justement de l'apprentissage de la composition. Parce que là, vous nous faites un cours magistral. Justement, comment votre esthétique, justement, et toute votre expérience influe sur les élèves? Et en même temps, comment vous arrivez à ce que les élèves gardent leur propre sens esthétique? Enfin, du coup, comment cet accompagnement il se fait un petit peu? Et ce que j'imagine, ça doit être complexe, justement, surtout dans, ça on en parlera peut-être après, mais des différentes époques. Mais du coup, c'est un peu ça que vous essayez d'apporter, justement, cette maîtrise du langage pour que vos élèves arrivent à se l'approprier et à créer quelque chose. Et si par exemple un de vos élèves fait une musique très très complexe, vous en pensez quoi?
J'ai aucun préjugé. Ma mission, je dirais, est celle de permettre aux jeunes artistes, jeunes compositeurs, compositrices, de trouver leur chemin.
Ouais.
Ils sont libres, vraiment libres, du point de vue esthétique, de faire ce qu'ils veulent. Et je m'occupe surtout de comment mettre en forme ces désirs, cette matière sonore qui bouillonne. D'abord d'intention et de pensée, de rêve, avant encore d'être mise sous forme musicale. Donc c'est un travail d'adaptation que je fais pendant ces 5 années de conservatoire, qui ont comme objectif la possibilité de rendre la voix du compositeur, de la compositrice la plus proche possible à leur intention, que je découvre peu à peu, au fur et à mesure. Je suis devant des gens
humain,
passionnés par la musique, qui ont peut-être des oreilles particulières, une façon d'écouter particulière, qui ont envie de dire des choses en musique et pas en poésie. Ou...
Oui.
Peut-être maintenant, c'est aussi de façon un peu plus multimédia, mais c'est par, surtout par le son que...
Ouais.
Qui est l'outil privilégié, que les choses se passent. Donc, c'est un travail de mise à point et d'amélioration de cet outil principal qui a à voir avec la sensibilité, la capacité d'écouter, d'avoir une écoute intérieure, parce que quand on écrit, on écoute d'abord de manière intérieure. On ne peut pas demander à l'orchestre de jouer notre musique.
Maintenant, avec justement la composition par ordinateur, je sais qu'il y a des confrères compositeurs qui ne composent qu'à l'ordinateur et qui écoutent déjà un pré-résultat avant d'écouter le résultat.
C'est ce qu'on a toujours fait pour la musique électroacoustique.
Ouais.
Et, parce qu'on fixe, avant on fixait sur une bande
qu'on pouvait manipuler. Même pour orchestre, maintenant j'ai l'impression que ça se fait. Je pense à Martin Matalon apparemment qui fait beaucoup ça.
Maintenant, bien sûr, on peut produire des maquettes. Et c'est quelque chose que j'ai découvert avec mes élèves. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé avant d'être prof au Conservatoire de Paris. Je l'étais en Italie.
D'accord.
J'ai commencé en 88. Et ben, l'informatique, Internet n'existait pas, n'est-ce pas? Et les PDF n'existaient pas. Et tout ce qui maintenant est distribué de manière capillaire et immatérielle à l'époque était sur papier. On était obligé de chercher des partitions de musique contemporaine dans quelques bibliothèques musicales. Par exemple, du Conservatoire de Milan, où j'étudiais, il y en avait un certain nombre. Souvent, on allait dans les magasins de musique qui existaient, maintenant ils n'existent plus, et on trouvait des partitions contemporaines qui étaient régulièrement volées par les compositeurs de musique contemporaine, les jeunes compositeurs, qui n'avaient pas les moyens.
Ça, en tout cas, on vole toujours des partitions, mais sur Internet maintenant.
Oui, on vole les PDF. Et donc, la possibilité d'avoir un résultat sonore avant même que des musiciens, un orchestre, tout un système, un dispositif le mettent en œuvre. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, il est possible. Et c'est devenu une méthode de travail. Mes élèves, je pense la majorité, préparent des maquettes à l'ordinateur avec des échantillons très bien faits. Et ils peuvent déjà avoir un aperçu plutôt précis de leur travail.
Et c'est assez drôle parce que ici, alors dans tous les compositeurs et compositrices à qui j'ai demandé, parce qu'il y en a quand même 20-30 qu'on a déjà invités, et je crois que la majeure partie réécrivait au papier. Et qu'ils sont passés par cette phase justement maquette et sont totalement revenus au papier. Je pense à Claudia Jens Crocaro, je pense à Sacha Blondeau, et alors qu'ils font tous de la musique électronique et électroacoustique aussi à côté. Mais quand ils composent pour orchestre et quand ils composent pour ensemble, il y a cette nécessité du papier qui revient. Et pour beaucoup, en tout cas, c'est assez impressionnant.
Oui, alors
dans toute cette génération 20, 25, 35.
Peut-être on est dans une phase où compte tenu de l'évolution des dispositifs d'écriture, de fixation, des idées sonores par plusieurs moyens, le papier ou l'ordinateur. On essaie de faire un va-et-vient entre des modalités anciennes et des modalités modernes, chacun à sa mesure. Moi, personnellement, j'écris sur papier, mais pas sur papier. J'écris sur tablette.
D'accord.
Et, alors, c'est très pratique parce que je voyage avec. Je n'ai pas besoin de transporter des kilos de papier. Ça ne s'abîme pas. Et j'ai une certaine flexibilité parce que quand on écrit sur une tablette, on a quelques procédés typiques de l'ordinateur, comme par exemple le copier-coller, qui est très utile en musique pour orchestrer, pour reprendre des idées, pour les transformer. Et pour moi, c'est une façon à la fois naturelle et moderne, parce que je touche l'immatériel, je crée une sorte de pérennité de mon travail. Et je ne le fais pas sur papier avec tous les difficultés et les mésavantages du papier. Ça s'abîme, on peut faire des trous si on efface. Effacer, c'est aussi très important.
Oui, bah oui.
Réécrire, mieux écrire en effaçant ce qu'on a déjà écrit. Sur une tablette, on peut avoir la trace de ce processus. Sur papier, on a une sorte de palimpseste, on peut gratter et retrouver des traces, mais c'est vraiment autre chose.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a la question pour les musicologues futurs, ça va être... ils vont avoir du travail.
Ils vont avoir beaucoup de fichiers PDF analysés.
Je propose qu'on écoute justement le fruit de ce travail, peut-être sur tablette, je ne sais pas si c'était déjà sur tablette, mais donc on enchaîne avec la musique Meta della Ripa. Donc ici interprété, donc c'est l'Orchestre National de Turin, de la Radio de Turin, c'est ça ? Et dirigé par Lothar Koenigs. on va y arriver. Et est-ce que, comme tout à l'heure, est-ce que vous avez peut-être une petite clé d'écoute pour celle-là ?
Alors, le titre est tiré du nom d'une rue, d'une petite ville de la Renaissance très belle italienne qui s'appelle Urbino. Une ville universitaire avec tous les immeubles sont en briques, un très beau château. Et c'est une rue très
pentue,
et que je me suis trouvé à parcourir un jour parce que j'enseignais au conservatoire de Pesaro qui est à côté. J'avais du temps libre, je visitais Urbino. Et d'abord, je n'avais pas bien vu le nom de la rue. J'avais lu Meta della Ripa, c'est-à-dire but de ce chemin qui monte. Et en fait, c'était Meta. J'étais arrivé à Meta, à la moitié, mais il y avait encore la moitié à parcourir pour arriver au sommet. Et bon, c'est à partir de cette idée qu'il y a aussi un jeu de mots un peu ironique, si vous voulez. Parce que la vie est un long chemin, on s'y croit la moitié, mais on ne sait pas vraiment si on est la moitié. Et la méta, le but, est toujours un mystère. À partir de là, j'ai composé cette pièce.
Eh bien, très bien, écoutons ça tout de suite sur Radio Campus Paris. Eh bien, c'est moi qui m'emmêle dans mes fiches, bien entendu. Peut-on switcher au son 3, s'il te plaît ? Désolé. Son 3. En plus, nous avons un nouveau réalisateur qui s'appelle Yacine, qui a été formé en 10 minutes chrono. C'est la vie, comme on dit. Et donc, je retrouve mes fiches, Michael. Oh mon Dieu.
Parce que la pièce 2, c'était les pianos.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ces pièces pour piano, ce livre pour piano, qu'on va écouter après. Mais là, du coup, écoutons donc justement cette rue divisée en deux qu'il faut gravir. Et on ne sait pas si c'est la moitié ou pas.
Thank you.
Et donc on écoutait Meta della Ripa, ici interprété donc par l'Orchestre National de la Radio de Turin, et donc composé par Stefano Gervasoni, qui est en présence avec nous, à absence. Et donc justement, on avait une discussion. Allons-y, on avait une discussion hors micro, parce que là, on vient d'écouter donc une pièce quand même pour orchestre, et on se posait la question un petit peu de se dire maintenant comment la composition a-t-elle évolué quand on compose pour orchestre, parce que déjà il y a un imaginaire, il y a un mystique pour tout le monde, et ça c'est tout le monde qui a inclus de cette pièce incroyablement écrite avec de nombreuses lignes, avec beaucoup de pages, quelque chose à déchiffrer pendant longtemps. Et alors comment la composition a évolué un petit peu de ce point de vue là?
Oui, alors cette pièce date de 2020, je crois.
D'accord, donc tout récent.
23 maximum. Donc elle a une vingtaine d'années. Et je, en la réécoutant, déjà j'avais du mal à retrouver mes notes. Mais je garantis que c'est moi le compositeur de cette pièce. Mais c'est à moi qui change avec le temps. Pas seulement parce que je vieillis, mais parce que aussi les conditions de travail changent. Mmh. Et donc on parlait du fait qu'écrire pour orchestre aujourd'hui signifie devoir respecter certaines contraintes temporelles qui sont devenues très lourdes. Mmh. La dernière pièce que j'ai composée pour orchestre, c'est un concerto pour violon orchestre qui a été joué la semaine dernière en Allemagne par la VDR, l'orchestre de la radio de Cologne. Donc un orchestre de radio comme l'orchestre RAI de Turin. Mais si cet orchestre RAI avait eu 3 services de 3 plus 3 plus 3, 9 heures avant général, l'orchestre de Cologne aujourd'hui, 20 ans après, a eu 2 heures au total avec une générale. Donc 2 heures plus 30 minutes la durée de la pièce pour la générale. Ils ont fait un travail énorme,
okay.
Parce que le niveau des orchestres s'est amélioré.
Ils ont eu l'occasion de plus travailler le répertoire, aussi le répertoire du 20e qui a fait évoluer un petit peu.
Oui, voilà, les orchestres sont composés maintenant de l'âge moyen a baissé. Et les membres de l'orchestre, des orchestres aujourd'hui ont étudié aussi le répertoire contemporain. Donc ils apprennent plus vite les partitions, ils les déchiffrent plus vite. Donc ça permet de rendre plus rapide.
On n'est pas obligé d'expliquer un code Ligno.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, si on veut rentrer dans les subtilités d'une pièce de création avec tout le fait que par définition, c'est une porte ouverte vers chaque pièce, une sorte de porte ouverte vers le mystère. Il faut du temps pour explorer le mystère. Et ce temps, malheureusement, est perdu. Alors, le risque, c'est qu'on écrive des pièces bien formatées, plus faciles à mettre en place, mais moins intéressantes, moins denses de mystère. Moins riche du point de vue de la sémantique de la pièce.
Ouais. Et finalement, est-ce que la rejouabilité des pièces rentre là-dedans? Par exemple, une pièce qui est, on va dire, moins riche dans le matériel de la partition, est-ce qu'elle va être plus facilement programmée entre guillemets, ou est-ce que parce qu'il y a ce jeu là aussi de se dire je fais une pièce simple comme ça les gens peuvent s'en emparer simplement et la rejouer simplement.
Le problème, alors,
et surtout l'effectif. Moi je me pose un peu la question, autant en termes d'écriture il faut que ce soit riche, il faut que ce soit approfondi et il faut le travailler, mais en termes d'effectif des fois je me dis pourquoi ce grand effectif si on pourrait réduire un peu pour améliorer la rejouabilité. Alors, si j'étais votre élève, ce serait un peu une question que je vous poserais.
Non, l'effectif n'est pas un paramètre qui favorise au moins la jouabilité d'une pièce. Mais c'est l'écriture, c'est comment la pièce est écrite. Si elle est écrite en respectant un peu la musicalité, c'est un mot complexe, la musicalité. Et donc la musique a une partie intellectuelle, une partie physique. Il faut que ça rentre dans la physique acoustique de l'instrument et dans la physiologie humaine d'une pratique digitale qui est aussi une pratique intellectuelle. Donc c'est la maîtrise. La maîtrise est à double sens, de la part des musiciens qui jouent une pièce, mais de la part aussi du compositeur. Voilà pourquoi, et le fait que le compositeur maîtrise la pièce, ça peut aussi rendre plus rapide la préparation de la pièce. Voilà pourquoi certains jeunes compositeurs aujourd'hui utilisent le système des maquettes, parce qu'ils peuvent déjà avoir une idée du résultat, avec le risque que le résultat soit une sorte d'objectif à reproduire à chaque exécution, même si les orchestres changent. Le résultat doit être pareil. Et ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour interprétation.
C'est ça, que ce soit une maquette de la maquette.
Et voilà pourquoi j'insiste à dire que chaque partition a un mystère. Chaque partition demande du temps pour déchiffrer ce mystère, pour rentrer dedans, pour trouver une clé. Donc ça, c'est l'interprétation. Mais le mystère doit être aussi pour les compositeurs. Et ça, c'est peut-être une contradiction possible avec l'idée de maîtrise. Comment maîtriser un mystère? Mais si on s'y limite à dire à l'orchestre, je veux que ce soit forte comme j'ai déjà fixé dans ma maquette, etc.
On ferme toutes les portes à l'imagination.
On ferme toutes les portes au mystère. Et donc, écrire signifie laisser des traces pour pouvoir rentrer dans le mystère, mais on rentre dans le mystère à chaque fois de manière différente. Et chaque exécution d'une pièce est une porte différente qui permet de rentrer dans les mystères.
Très bien. Eh bien, en parlant de mystères, désolé, j'ai fait une transition. Lorraine, tu as une chronique pour nous. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu en chronique.
C'est vrai.
Et donc, je te lance. Je ne sais pas le sujet, à moitié pas le sujet, mais tu vas nous faire une pause pour qu'on puisse
tout à fait
reprendre notre souffle.
Donc, je vais vous parler de, en gros, la créatrice de l'équivalent américain de l'ensemble intercontemporain. C'est Claire Chase. Bon, la comparaison est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais l'International Contemporary Ensemble, qu'elle a cofondé en 2001, c'est une des grandes références d'ensemble de musique contemporaine pour les États-Unis et qui a pour visée de porter la création, un peu comme pour nous le lycée. Il y a un autre grand projet qui est mené par Claire Chase et qui est très intéressant, qui se donne aussi cet objectif de promouvoir la création, mais spécifiquement pour la flûte, parce que c'est une interprète flûtiste. Et ce projet s'appelle Density 2036. C'est une entreprise qui se déroule depuis 2013 et jusqu'à 2036, donc sur 23 ans, et où chaque année, elle commande des œuvres, elle les joue en concert et elle les enregistre, avec l'idée de créer un nouveau répertoire pour la flûte et même un nouvel écosystème dans le monde de la création. Pourquoi cette date de 2036? Parce que cette année marquera les 100 ans de Densité 21.5 de Varèse, qui est l'œuvre charnière du début de l'écriture contemporaine pour la flûte, et dont on va tout de suite écouter un court extrait interprété par Jacques Zoon.
Aussi.
C'était Densité 21.5 de Varèse, interprété par Jacques Zoon. Et Claire Chase parle de cette œuvre comme celle qui lui a ouvert la porte à un autre monde musical. Et dans cette lignée, elle essaye aussi d'étendre les limites de la flûte par la recherche de timbres et de modes de jeu inouïs. C'est une recherche qui a été très fructueuse, particulièrement dans cet instrument-là. Depuis les années 30, il y a l'exploration par les compositeurs de différents sons, de différents timbres et aussi de différentes flûtes, puisqu'il y a plusieurs hauteurs qui existent, donc le piccolo qu'on connaît bien, mais aussi la flûte alto et la flûte basse. Et là, on va entendre Claire Chase dans un extrait de Ubik de Anna Thorvaldsdottir pour flûte contrebasse et électronique.
qui est intéressant dans cette entreprise menée par Claire Chase, c'est aussi la figure d'interprète qui incarne en même temps une force de proposition et de promotion, ce qui est de plus en plus rare puisque ça demande des fonds. Et ça s'explique justement parce qu'elle a reçu une bourse MacArthur qu'elle peut utiliser pour financer tout ça. Donc elle joue un peu ce double rôle de mécène et d'interprète, et elle fait aussi le travail de diffusion. Et donc pour finir, on va l'écouter dans Thought Song de Lisa Lim, où elle joue de l'ocarina et elle chante aussi.
Super, ben merci beaucoup Lorraine. Ça me fait penser à cette instrumentiste qui commandait aussi des pièces, Aki Takahashi, pianiste incroyable, qui avait commandé des réécritures des Beatles à Ligeti, etc., qui sont assez incroyables. On entend Michel des Beatles réécrite par Ligeti, et ça, c'est assez exceptionnel.
Ça fait envie.
Voilà, ça fait envie. De retour avec donc le compositeur et pédagogue donc Stefano Gervasoni. Comment aborder cette double casquette d'être en même temps artiste et en même temps pédagogue? Et en même temps les élèves sont artistes et élèves. Comment ça se joue ce rapport de pouvoir un petit peu
Vous parlez de pouvoir, mais pour moi c'est quelque chose de...
Mais ça peut être un pouvoir positif justement, d'élévation.
Oui, alors pouvoir dans le sens que comme c'était à l'époque de la Renaissance, on a parlé de Renaissance, et, bon, je considère mes élèves... partie de mon atelier, on est ensemble pour apprendre réciproquement.
D'accord.
À la base, il y a une sorte de pacte de complicité, parce que notamment ici au Conservatoire de Paris, ils choisissent les professeurs.
Ah d'accord, donc, j'aurais dû me dire avant.
Donc jusqu'à présent, je pense que j'ai eu uniquement des étudiants et des étudiantes qui m'ont choisi.
D'accord.
Et donc à partir d'une sorte d'affinité, d'attraction, de séduction que ma musique pourrait avoir pu exercer sur certains compositeurs et compositrices, ils demandent d'étudier avec moi, avec Gérard Pesson, dernière, avec Clara Iannotta maintenant, avec Frédéric Durieux. Et on les accepte dans notre classe, on se connaît réciproquement, on commence à comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils ont envie de faire, et on offre des moyens, des pistes, des suggestions, et on vérifie leur travail, bien sûr, c'est très important. On les incite à parcourir des chemins qui parfois peuvent être un peu durs. Mais l'exercice et la discipline sont toujours une bonne méthode de travail. Et on les oblige aussi à parler de leur musique. Parce que c'est très important, la prise de parole, et c'est de passer par un autre médium que le son. Est très important pour avoir conscience de son propre travail.
De l'ancrer dans le réel un petit peu.
Oui,
aussi.
Et c'est simplement de dire pourquoi, quelles sont les motivations, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi vous avez fait ça plutôt que ça, pourquoi cette pièce est en deux parties et pas en trois. C'est des questions banales, mais qui obligent à réfléchir, à rentrer dedans, à reparcourir le processus créatif, qui est encore une fois un mystère.
Et très bien. Alors, pour conclure rapidement, avant d'écouter en guise de fin un extrait de votre second livre pour piano. Alors, j'ai la deux questions de fin. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être compositeur? Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être professeur de composition? Pour les jeunes compositeurs qui nous écoutent,
Moi je crois que chaque compositeur est quand il commence à se poser le problème de dire de manière transparente, de transmettre ses obsessions, parce qu'il s'agit souvent d'obsessions et de désirs et de rêves communicables en quelque sorte avec le son, et on se pose automatiquement le problème de transmettre. Donc, on transmet des idées, mais on transmet aussi des outils. Donc c'est inévitable de parler, quand on parle de nos idées, de parler aussi de comment on les a fabriquées, on les a rendues concrètes, vibrantes. Et voilà pourquoi on parle des moyens, et voilà pourquoi après il y a des institutions très bienvenues, qui sont les conservatoires, les académies de musique, d'art, où les artistes peuvent exercer ce rôle, qui est d'abord un rôle de transmission qui est lié au passé, parce que les techniques sont anciennes aussi bien que modernes. Il n'y a pas que les extended techniques en musique contemporaine, mais il y a aussi le contrepoint, la polyphonie et d'autres manières de fabriquer des textures sonores en réactualisant des procédés du passé, de l'époque de Bach et même avant.
Très bien.
Il y avait peut-être une deuxième question que j'ai.
Quelle qualité pour être professeur de composition, du coup?
Donc, qualité à aimer les jeunes générations et imaginer que on n'est pas victime de notre rôle, parfois très narcissique, de maître de la musique, de compositeur. Qui a des choses à dire, mais qu'on est un véhicule, on est traversé par ce mouvement qui vient du lointain passé, qui vise le futur, qui est de transmettre. Donc, on est aussi des instruments.
Eh bien, très bien. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Une heure dense, mais belle.
Qui est volée, parce que j'ai pas eu l'impression de.
Merci.
Si longtemps.
Merci beaucoup, Stefano Gervasoni.
Merci à vous.
Et donc, on va conclure tranquillement l'émission par votre deuxième livre pour piano. Pareil, une clé d'écoute rapide, même si on écoutera très brièvement.
Alors, mon deuxième fait partie d'un cycle de trois livres, peut-être d'un quatrième qui arrivera un jour. L'idée, c'est d'écrire des pièces pour enfants, mais écrites pour des pianistes adultes. Donc, encore une fois, en rapport avec le passé, l'enfance un peu ironique. Il ne s'agit pas d'écrire des pièces simples, mais d'imaginer un monde sonore enfantin qui est réactualisé à l'âge adulte, d'où des sortes de caprices, paradoxes, voyages improbables. J'aime beaucoup l'idée de voyage en musique et souvent d'un voyage qui mène nulle part, sans méta, sans but. Et donc c'est ce cycle de petites pièces pour piano, soit un peu un journal, un témoignage de chaque journée, de ce mini voyage qui fait un grand voyage.
Eh bien, écoutons un extrait de 3 minutes de ce bouquin pour piano. Et donc, comme le disait un ami Jean-Pierre derrière, le troisième est bien meilleur que le deuxième. Et merci Yacine pour la technique, d'avoir remplacé au pied levé Marie-Lou, qu'on retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on a un trio d'improvisation qui s'appelle L'Impoli, accordéon, saxophone et guitare électrique, qui sont de la maison du CNSM aussi. voilà. On se retrouve donc dans 2 semaines. Merci Lorraine pour la chronique.
Merci.
Et merci Stefano.
Merci à vous.
Pour vos éclairages. Et c'est trop bien de vous avoir en tout cas avec nous. Et j'espère que ça a pu aider un petit peu des jeunes à s'y retrouver dans tout ça. Même si, enfin voilà. Et la proposition de date pour parler de la Rain Man tient toujours. Donc restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Et surtout restez curieux auditivement et intellectuellement sur le 93.9.
Radio Campus Paris. Il est 22h.